Je ne voyais donc rien de changé dans ma position, si ce n'est que mon nouveau lycée était plus vaste et se nommait l'école de médecine. Néanmoins, j'étudiais d'abord courageusement, je suivis les cours avec assiduité. Je me jetais dans le travail à corps perdu, sans prendre de divertissement, tant les trésors de science dont abonde la capitale émerveillèrent mon imagination. Mais bientôt, des liaisons imprudentes, dont les dangers étaient voilés par cette amitié follement confiante qui séduit tous les jeunes gens, me firent insensiblement tomber dans la dissipation de Paris. Les théâtres, leurs acteurs pour lesquels je me passionnais, commencèrent l'œuvre de ma démoralisation. Les spectacles d'une capitale sont bien funestes aux jeunes gens, qui n'en sortent jamais sans de vives émotions, contre lesquelles ils luttent presque toujours infructueusement. Aussi la société, les lois, me semblent-elles complices des désordres qu'ils commettent alors. Notre législation a pour ainsi dire fermé les yeux sur les passions qui tourmentent le jeune homme entre 20 et 25 ans. À Paris, tout l'assaille. Ses appétits sont incessamment sollicités. La religion lui prêche le bien, les lois le lui commandent, tandis que les choses et les mœurs l'invitent au mal. Le plus honnête homme ou la plus pieuse femme ne s'y moque-t-il pas de la continence? Enfin, cette grande ville paraît avoir pris à tâche de n'encourager que les vices, car les obstacles qui défendent l'abord des états dans lesquels un jeune homme pourrait honorablement faire fortune sont plus nombreux encore que les pièges incessamment tendus à ses passions pour lui dérober son argent. J'allais donc, pendant longtemps, tous les soirs, à quelque théâtre, et contractais peu à peu des habitudes de paresse. Je transigeais en moi-même avec mes devoirs. Souvent, je remettais au lendemain mes plus pressantes occupations. Bientôt, au lieu de chercher à m'instruire, je ne fis plus que les travaux strictement nécessaires pour arriver au grade par lesquels il faut passer avant d'être docteur. Au cours public, je n'écoutais plus les professeurs, qui, selon moi, radotaient. Je brisais déjà mes idoles. Je devenais parisien. Bref, je menais la vie incertaine d'un jeune homme de province qui, jeté dans la capitale, garde encore quelques sentiments vrais, croit encore à certaines règles de morale, mais qui se corrompt par les mauvais exemples, tout en voulant s'en défendre. Je me défendis mal. J'avais des complices en moi-même. Oui, monsieur. Ma physionomie n'est pas trompeuse, j'ai eu toutes les passions dont les empreintes me sont restées. Je conservais cependant au fond de mon cœur un sentiment de perfection morale qui me poursuivit au milieu de mes désordres et qui devait ramener un jour à Dieu, par la lassitude et par le remords, l'homme dont la jeunesse s'était désaltérée dans les eaux pures de la religion. Celui qui sent vivement les voluptés de la terre n'est-il pas, tôt ou tard, attiré par le goût des fruits du ciel. J'eus d'abord les mille félicités et les mille désespérances qui se rencontrent plus ou moins actives dans toutes les jeunesses. Tantôt je prenais le sentiment de ma force pour une volonté ferme et m'abusais sur l'étendue de mes facultés. Tantôt, à l'aperçu du plus faible écueil contre lequel j'allais me heurter, je tombais beaucoup plus bas que je ne devais naturellement descendre. Je concevais les plus vastes plans. Je rêvais la gloire, je me disposais au travail, mais une partie de plaisir emportait ces nobles velléités. Le vague souvenir de mes grandes conceptions avortées me laissait de trompeuses lueurs qui m'habituaient à croire en moi sans me donner l'énergie de produire. Cette paresse pleine de suffisance me menait à n'être qu'un sot. Le sot n'est-il pas celui qui ne justifie pas la bonne opinion qu'il prend de lui-même? J'avais une activité sans but, je voulais les fleurs de la vie sans le travail qui les fait éclore. Ignorant les obstacles, je croyais tout facile, j'attribuais à d'heureux hasards et les succès de science et les succès de fortune. Pour moi, le génie était du charlatanisme. Je m'imaginais être savant parce que je pouvais le devenir, et sans songer ni à la patience qui engendre les grandes œuvres, ni au fer qui en révèle les difficultés, je m'escomptais toutes les gloires. Mes plaisirs furent promptement épuisés. Le théâtre n'amuse pas longtemps. Paris fut donc bientôt vide et désert pour un pauvre étudiant dont la société se composait d'un vieillard, qui ne savaient plus rien du monde, et d'une famille où ne se rencontraient que des gens ennuyeux. Aussi, comme tous les jeunes gens dégoûtés de la carrière qu'ils suivent, sans avoir aucune idée fixe, ni aucun système arrêté dans la pensée, ai-je vagué pendant les journées entières à travers les rues, sur les quais, dans les musées et dans les jardins publics. Lorsque la vie est inoccupée, elle pèse plus à cet âge qu'à un autre, car elle est alors pleine de sève perdue et de mouvements sans résultat. Je méconnaissais la puissance qu'une ferme volonté met dans les mains de l'homme jeune, quand il sait concevoir, et quand, pour exécuter, il dispose de toutes les forces vitales, augmentées encore par les intrépides croyances de la jeunesse. Enfants, nous sommes naïfs, nous ignorons les dangers de la vie. Adolescents, nous apercevons ses difficultés et son immense étendue. À cet aspect, le courage parfois s'affaisse. Encore neufs au métier de la vie sociale, nous restons en proie à une sorte de niaiserie, à un sentiment de stupeur, comme si nous étions sans secours dans un pays étranger. À tout âge, les choses inconnues causent des terreurs involontaires. Le jeune homme est comme le soldat qui marche contre des canons et recule devant des fantômes. Il hésite entre les maximes du monde. Il ne sait ni donner, ni accepter, ni se défendre, ni attaquer. Il aime les femmes et les respecte comme s'il en avait peur. Ses qualités le desservent. Il est tout générosité, tout pudeur, et pur des calculs intéressés de l'avarice. S'il ment, c'est pour son plaisir et non pour sa fortune. Au milieu de voix douteuses, sa conscience, avec laquelle il n'a pas encore transigé, lui indique le bon chemin, et il tarde à le suivre. Les hommes destinés à vivre par les inspirations du cœur, au lieu d'écouter les combinaisons qui émanent de la tête, restent longtemps dans cette situation. Ce fut mon histoire. Je devins le jouet de deux causes contraires. Je fus à la fois poussé par les désirs du jeune homme et toujours retenu par sa niaiserie sentimentale. Les émotions de Paris sont cruelles pour les âmes douées d'une vive sensibilité. Les avantages dont y jouissent les gens supérieurs ou les gens riches irritent les passions. Dans ce monde de grandeur et de petitesse, la jalousie sert plus souvent de poignard que d'aiguillon. Au milieu de la lutte constante des ambitions, des désirs et des haines, il est impossible de ne pas être ou la victime ou le complice de ce mouvement général. Insensiblement, le tableau continuel du vice heureux et de la vertu persiflée fait chanceler un jeune homme. La vie parisienne lui enlève bientôt le velouté de la conscience. Alors commence et se consomme l'œuvre infernale de sa démoralisation. Le premier des plaisirs, celui qui comprend d'abord tous les autres, est environné de tels périls qu'il est impossible de ne pas réfléchir aux moindres actions qu'il provoque, et de ne pas en calculer toutes les conséquences. Ces calculs mènent à l'égoïsme. Si quelque pauvre étudiant entraîné par l'impétuosité de ses passions est disposé à s'oublier, ceux qui l'entourent lui montrent et lui inspirent tant de méfiance qu'il lui est bien difficile de ne pas la partager, de ne pas se mettre en garde contre ses idées généreuses. Ce combat dessèche, rétrécit le cœur, pousse la vie au cerveau, et produit cette insensibilité parisienne, ces mœurs, où, sous la frivolité la plus gracieuse, sous des engouements qui jouent l'exaltation, se cache la politique ou l'argent. Là, l'ivresse du bonheur n'empêche pas la femme la plus naïve de toujours garder sa raison. Cette atmosphère dut influer sur ma conduite et sur mes sentiments. Les fautes qui empoisonnèrent mes jours eussent été d'un léger poids sur le cœur de beaucoup de gens, mais les méridionaux ont une foi religieuse qui les fait croire aux vérités catholiques et à une autre vie. Ces croyances donnent à leur passion une grande profondeur, à leur remords de la persistance. À l'époque où j'étudiais la médecine, les militaires étaient partout les maîtres. Pour plaire aux femmes, il fallait être au moins alors colonel. Qu'était dans le monde un pauvre étudiant? Rien. Vivement stimulé par la vigueur de mes passions, et ne leur trouvant pas d'issue, arrêtés par le manque d'argent à chaque pas, à chaque désir, regardant l'étude et la gloire comme une voie trop tardive pour procurer les plaisirs qui me tentaient, flottant entre mes pudeurs secrètes et les mauvais exemples, rencontrant toute facilité pour des désordres en bas lieu, ne voyant que difficultés pour arriver à la bonne compagnie, je passais de tristes jours, en proie aux vagues des passions, aux désœuvrements qui tuent, à des découragements mêlés de soudaines exaltations. Enfin, cette crise se termina par un dénouement assez vulgaire chez les jeunes gens. J'ai toujours eu la plus grande répugnance à troubler le bonheur d'un ménage.